Bonjour, donc vous voyez mon nom, Gerhard Kriner, donc je suis directeur de recherche au laboratoire de CNRS, au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement. Je suis aussi directeur adjoint de ce laboratoire. Donc les logos, vous les verrez là tout le long en bas. Donc est-ce que je peux avancer moi-même là-dessus? Non, je ne peux pas, si. Alors, déjà je vais vous dire... En quelle qualité je vais vous raconter un peu ce qu'on sait sur le changement climatique. Je suis membre du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et c'est ce groupe, ce GIEC, en IPCC en anglais, ici, qui a été installé par les Nations Unies il y a 25 ans environ, pour fournir des rapports sur les bases scientifiques sur ce qu'on sait vraiment sur le changement climatique, qui servent ensuite de base pour les négociations climatiques, par exemple comme celle qu'on vient d'avoir à Lima. Donc cet IPCC, là, ne regardez pas dans le détail tout ce qu'il y a. Bon, il y a une évolution dans le temps. On a fait 5 rapports. Il y a beaucoup d'écho là. Plus ici, là c'est pareil, bon, il y a eu 5 rapports, et donc le dernier a été publié en 2013. C'est le GIEC, c'est 800 personnes à peu près, des chercheurs qui travaillent en dehors de leur temps de recherche normal pour faire ce résumé de l'état de l'art. Il est organisé en 3 groupes. Un premier groupe sur la base physique du climat, un deuxième sur les impacts et un troisième groupe sur les méthodes de mitigation, d'adaptation et atténuation du changement climatique. Et moi, je fais partie du premier groupe, c'est donc celui sur la base physique du climat. Donc, je vais vous raconter beaucoup plus de choses sur ça. Voilà, donc continuons. Oui, je fais, mais je ne vais pas dans la bonne... Ah, voilà. Donc le rapport du GIEC, c'est ça. Il contient à peu près 1500 pages pour un seul groupe de travail, donc c'est un pavé comme ça. Évidemment, le fait qu'un rapport soit épais, ça ne veut pas dire qu'il est forcément bon, d'accord? Mais je vais quand même le faire passer, il est en anglais, vous pouvez jeter un coup d'œil dedans, donc c'est extrêmement bien documenté, évidemment. Et ce genre de rapport, ça aussi... des parties façon pilule astronaute, des comprimés du comprimé, ça pour le deuxième et troisième groupe du travail, c'est ce qu'on appelle les résumés à l'intention des décideurs, donc c'est beaucoup plus court, en quelques pages, pour les autres. Voilà. Voilà, donc ça, je vais vite passer à la suite, parce qu'il faut que je me dépêche, et c'est normal. Voilà. Je vais vous donner quelques messages clés qu'on a sur le changement climatique, sur ce qu'on sait vraiment, et dire quelques mots aussi sur les impacts où je ne suis pas vraiment spécialiste. Un message important, chacune des 3 décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que n'importe quelle décennie depuis 1850. Donc vous voyez ici, vous aurez beaucoup de graphiques, mais je vais à chaque fois expliquer lequel il faut vraiment regarder et lequel est vraiment important. On va voir ici l'axe du temps entre 1850 et 2000, et ici une anomalie de température en moyenne globale, par rapport à un zéro qui est à peu près dans cette période-là. Et vous voyez ici la décennie de 2000 à 2010, qui est plus chaude que celle de 1990 à 2000, qui est plus chaude que celle de 1980 à 1990, etc. Donc les décennies se réchauffent. Évidemment, il y a de la variabilité interannuelle, mais quand on fait des moyennes sur des périodes plus longues, le réchauffement est très très clair. Voilà. Est-ce que ça avance ? Donc là, il faut que vous appuyiez quelque part sur le diagramme. Ouais, appuyez. Là, on a une petite animation des températures moyennes annuelles depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit les couleurs rouges, ça indique le chaud, et les couleurs bleues, le froid. Évidemment, vous voyez une petite échelle de couleurs en haut à gauche. Et puis, on voit ce fort réchauffement depuis le milieu des années 70 à peu près. Ça devient de plus en plus rouge. Et on arrive en 2013. Et on voit déjà, si on attend une seconde, parce que vous verrez ces mêmes structures tout à l'heure, un réchauffement fort en Arctique et un réchauffement qui a tendance à être plus fort sur les continents que sur les océans. On voit ici une structure intéressante et pas beaucoup sur l'océan austral. Donc vous allez voir ça encore après. J'essaie d'avancer, encore un, ça ne marche pas, voilà. À très longue échelle de temps, très très rapidement, donc là encore pareil, les années, donc de moins 4000 à aujourd'hui, il y a des réchauffements et des refroidissements naturels, et là c'est le 20e siècle, 21e siècle, et encore plus longue échelle de temps, donc là il y a 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui, là on voit jusqu'en 2100 avec une projection, donc ça c'est le réchauffement climatique observé, là c'est des projections pour le futur, et là on voit qu'il y a eu quand même des variations naturelles. Alors ce qui est intéressant, c'est il y a 20 000 ans, il y avait ce qu'on appelle le thermomaximum glaciaire, et à cette période-là, la Terre était 3-4 degrés plus froide qu'aujourd'hui. Et alors, ça veut dire quoi, 3-4 degrés plus froid? Et bien, à cette période-là, il y avait 3 km de glace sur le Canada et sur la Scandinavie. D'accord? Avec une température de la planète qui était 3-4 degrés inférieure à aujourd'hui. Donc, quand on vous dit que le climat va peut-être se réchauffer dans les prochains siècles de 3 ou 4 degrés, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup. Pensez au fait que 3-4 degrés de moins, ça vous fait 3 km de glace sur le Canada. Donc, c'est une autre planète. D'accord? Voilà. La suite. Eh bien, ça se réchauffe. Ça s'est bien réchauffé depuis le 19e siècle. Évidemment, tout ce qui est glacier et glace, ben, ça diminue aussi. Donc, je vais me concentrer sur un des graphiques seulement pour aller vite. Pareil, toujours la même chose. L'axe de temps ici, donc 19e siècle, enfin 1900. Et ici, c'est le présent, c'est l'extension de la glace de mer en Arctique qui diminue. Pareil, il y a beaucoup de variabilité, mais ça, c'est l'extension de neige dans l'hémisphère nord au printemps. Il y a aussi une diminution. Et là, c'est la contribution des calottes de glace au niveau de la mer qui devient de plus en plus positive. Donc, évidemment, pas de surprise, ça se réchauffe, donc les glaciers fondent. Donc, je ne vais pas vous raconter une grande surprise. Tout ça, ça correspond très bien à la compréhension physique que nous avons du système climatique. Moi-même, je suis physicien à l'origine, et tout le système climatique, c'est extrêmement complexe. C'est un système couplé, on va dire ici, entre l'atmosphère, la végétation, la glace, la surface de la Terre, les océans qui interagissent. Mais il y a quand même un truc qui est le principe de fonctionnement de base, c'est que le Soleil, il envoie l'énergie. C'est du rayonnement solaire qui est intercepté dans l'atmosphère et à la surface de la Terre et qui est renvoyé ensuite à la surface, elle se réchauffe. Elle envoie ce qu'on appelle le rayonnement thermique, c'est un rayonnement infrarouge qu'on ne peut pas voir, mais qui est essentiellement de la chaleur. Ce rayonnement est absorbé dans l'atmosphère, une partie est renvoyée vers le bas, une partie est renvoyée dans l'espace. Et le système climatique il fait en sorte que toute l'énergie qui arrive à terme retourne dans l'espace. Avec la température de la surface qui s'équilibre pour que cet équilibre en haut de l'atmosphère soit maintenu. L'essentiel de l'effet de serre, c'est tout simplement que de ce rayonnement thermique qui est émis par la surface, une fois qu'elle est réchauffée, ce rayonnement thermique il est plus fortement intercepté dans l'atmosphère. Il y a donc une partie, une absorption plus forte ici, et une partie qui est renvoyée à la surface. Et donc, quand il y a le rayonnement qui est renvoyé à la surface, ça se réchauffe. Donc, cet effet de serre, cet effet de serre, qui est renforcé par les gaz à effet de serre, il est naturel. Sans cet effet de serre, la température à la surface de la Terre, elle serait de moins 20 degrés. Donc, c'est un effet naturel. Le principe physique de l'effet de serre, il est connu depuis le 19e siècle. Il y a des chercheurs comme un prix Nobel danois au début du 20e siècle qui ont déjà calculé le réchauffement qu'on aurait si on doublait la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, gaz carbonique qui est le gaz à effet de serre principal. Et il a déjà, il y a 100 ans, à peu près prédit que l'augmentation serait de l'ordre de 5 degrés. Aujourd'hui, on estimerait ça plutôt à 3 degrés, mais ce n'était pas si faux que ça. Et d'ailleurs, l'effet de serre, il a été décrit en premier par Joseph Fourier, qui a donné le nom à mon université, qui n'est plus là. T'es censé être là. Enfin, c'est pas grave. l'université Joseph Fourier de Grenoble. Donc, il a travaillé dans l'Isère. Voilà. Donc, très brièvement, l'effet de ces activités humaines est une augmentation de l'énergie du système climatique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'effet de serre supplémentaire causé par l'homme. Et le facteur principal, c'est le CO2. Donc on mesure cette interférence de l'homme avec le système climatique dans une unité pas très importante ici pour vous, c'est des watts par mètre carré, tout simplement une densité de flux d'énergie. Et vous pouvez l'oublier tout de suite ce que je viens de dire, mais donc c'est ici on voit l'effet de serre, l'effet de l'homme mesuré toujours dans ces watts par mètre carré sur le système climatique, ça se mesure donc dans des watts par mètre carré. Aujourd'hui on est autour de 2,3. C'était nettement moins en 1950, évidemment, et vous comparez cette barre-là, donc aujourd'hui, l'influence de l'homme sur le système climatique, l'essentiel de ça, c'est dû au CO2. Il y a d'autres effets aussi, le méthane, le CH4, ce qu'on appelle le gaz de marée. Il y a aussi des effets d'activité humaine qui sont négatifs, qui ont un effet refroidissant, mais le total, évidemment, celui-là, et l'essentiel, c'est le CO2. Alors, comment on fait maintenant? On a dit, on comprend le système climatique, on a fait des projections, des prédictions déjà il y a 30 ans qui marchaient très bien, qui disent essentiellement comment le système climatique après a vraiment évolué. Comment on fait ça? C'est pour faire des projections pour le futur. Et bien, on fait avec des modèles de climat. Alors ces modèles de climat sont des gros codes numériques qui fonctionnent essentiellement comme des modèles de météo qu'on utilise pour prédire la météo pendant 3-4 jours. On a les équations de fonctionnement du système climatique, la dynamique de l'atmosphère, le rayonnement, les échanges à la surface, l'hydrologie, tout ça, on peut le mettre en formule physique et mathématique. Et on peut donc calculer l'évolution d'un système, comme la Terre, en la découpant en petits morceaux, petites boîtes. Et dans chaque boîte, à chaque instant, on connaît, par exemple, pour aujourd'hui, on sait quelle est la distribution de pression, et on peut calculer si je connais la température, la pression, etc., aujourd'hui, à tel instant, partout sur la Terre, je peux calculer l'évolution de ça 5 minutes plus tard. Donc comment ça évolue en fonction de la dynamique des fluides, etc., comment ça évolue? Les nuages qui se forment, il pleut, etc., il y a une tempête qui se forme, donc ça, c'est les équations physiques, essentiellement de la dynamique des fluides et du rayonnement. Et on fait ça sur 200-300 ans. Donc on calcule l'état du système minute après minute sur 300 ans, comme un modèle de météo, sauf que nous, on ne fait pas 4 jours, mais on fait ça sur plusieurs centaines d'années. On fait ça à une résolution plus basse, résolution spatiale plus basse que la météo. La météo, c'est très fin, échelle très, très fine. Nous, parce qu'on a une échelle temporelle très très longue, on a des modèles plus grossiers spatialement. Et ces modèles deviennent de plus en plus complexes. Au début, dans les années 70, on avait de l'atmosphère, l'océan et la surface de la Terre qu'on prenait en compte. Et maintenant, on a les aérosols, le cycle de carbone, la végétation dynamique, la chimie de l'atmosphère et l'interaction avec la glace continentale qu'on prend en compte. Donc ces modèles deviennent de plus en plus lourds et ils s'améliorent surtout aussi. On va continuer. Clac. Voilà. On va remontrer que celui-là. Donc ça, c'est ici, c'est un axe de temps implicite. Donc là, c'est à peu près dans les années 90, au milieu des années 90. Et là, c'est aujourd'hui à peu près. Et je vais montrer ce graphe-là. On peut évaluer la qualité avec laquelle les modèles reproduisent la modélisation, les températures observées à la surface de la Terre. Et on peut mesurer ça avec un facteur 1, ça voudrait dire que les modèles sont absolument parfaits, ils reproduisent de façon absolument parfaite la répartition des températures à la surface de la Terre. Et on voit qu'avec le temps, ces modèles s'améliorent. Et là, on devient très proche de quelque chose qui est vraiment très bon. C'est plus difficile pour les précipitations, mais pareil, ça s'améliore. Là, c'est pour la glace de mer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Évidemment, ces modèles, on travaille dessus. C'est pour ça que je suis payé au CNRS, pour améliorer ces modèles. Et on n'est pas parfait, mais on s'améliore. Suivant. Autre message clé, c'est que l'influence humaine sur le climat est absolument évidente. Donc ce qu'on peut faire avec ces modèles, que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure, c'est de faire calculer au modèle l'évolution du climat qu'on aurait si on n'avait pas augmenté les concentrations de gaz à effet de serre. D'accord, le modèle, il est basé sur la physique. On peut commencer à intégrer, faire une simulation du climat depuis le 19e siècle, en disant au modèle, la concentration de gaz à effet de serre n'a pas augmenté. Calcule-moi le climat qu'on aurait eu. Et ça donne essentiellement, donc là c'est pour les différentes régions, moi je vais montrer juste ici la moyenne globale, on va regarder ça. Et dans ce cas-là, les modèles, ils calculent une évolution depuis le début du 19e, du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, qui est essentiellement plate, c'est la courbe bleue. La courbe noire que vous voyez, c'est les observations, qui ressemblent, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et la courbe rouge, c'est ce qu'on obtient avec les modèles, quand on dit au modèle, bah, maintenant, calcule-moi l'évolution de la température si la concentration de gaz à effet de serre a augmenté. Ce qui est vrai, la température de gaz à effet de serre a augmenté. Et les modèles, ils calculent, dans ce cas-là, une évolution du climat qui est celle-là. Et ça, c'est pour les différentes régions, c'est encore une fois, chaque fois la même chose, donc pour l'Asie, pour l'Europe, etc. Donc là, des modèles qui sont basés sur la physique seulement, dans lesquels on ne rentre pas des données de température, etc. Ils sont basés seulement sur la physique et sur la connaissance de l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre. Et bien, ils arrivent à reproduire l'évolution constatée du climat seulement si on prend en compte les gaz à effet de serre. La suite. Combien de temps il me reste là? Allez, j'y vais. Ce graphique-là, il est important. Ce graphique est extrêmement important et en fait, il est extrêmement simple et je vais vous l'expliquer pourquoi il est très simple. Et en fait, il n'a pas plu parce qu'il est très simple. Il n'a pas plu à qui? Il n'a pas plu au moment de l'adoption du rapport du GIEC à certains États qui aimerait bien continuer à émettre beaucoup de gaz à effet de serre ou produire du pétrole. Notamment l'Arabie Saoudite a été vent debout contre ce graphique. Qu'est-ce qu'il nous montre? Ce graphique, il nous montre dans l'axe X ici, dans l'axe horizontal, le cumul des émissions de gaz à effet de serre, ou de CO2 essentiellement. C'est-à-dire, depuis le début de la révolution industrielle, l'homme a brûlé du charbon et ensuite du pétrole. Et donc, on peut mesurer la quantité totale qui a été brûlée. D'accord ? C'est ce qu'on mesure ici en pétagrammes de carbone. Alors, c'est quoi cette unité ? C'est des milliards de tonnes. D'accord ? C'est des milliards de tonnes. Donc, pour l'instant, on est arrivé ici, en 2010, un peu plus loin que ça. On a à peu près envoyé presque 500 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, en carbone. Et dans l'axe vertical, ici, on voit la température, l'augmentation de température. Donc l'homme a continué à émettre, et la température, elle a suivi. La courbe noire, ici, c'est les observations. D'accord ? Donc ça, c'est comme un axe de temps, parce qu'avec le temps, le total, le cumul des émissions a augmenté. Donc vous voyez, plus on a émis, plus la température a monté. Donc là, vous voyez cette évolution depuis 1900 à peu près, au milieu du 18e siècle, 19e siècle, 1850. Et on est arrivé là. Donc la température, avec les 500 pétagrammes de carbone qu'on a émis, a augmenté de 1 degré. Et maintenant, ce qu'on voit avec les calculs des modèles, qui sont basés, encore une fois, seulement sur la physique, qui ne sont pas une extrapolation bête et méchante de cette courbe-là, les modèles ils disent si on continue à émettre, en fait, la température augmente à peu près pareil, c'est assez linéaire. Hein. Donc c'est extrêmement simple. Parce que ça veut dire que si on veut arriver à limiter le changement climatique à 2 degrés, ben, il suffit de prendre ce graphique-là, dire 2 degrés, boops, je vais là et je regarde à quelle émission, quelle quantité totale de carbone ça correspond. D'accord ? Vous voulez un réchauffement de 4 degrés, pas de problème, vous allez là, hop, 2000. D'accord ? Bon, évidemment, il y a des incertitudes hein, qui sont pas négligeables. Mais quand même, ça montre qu'il y a un lien très fort et en principe qu'on peut faire cette façon-là, comme j'ai dit, aller de la cible jusqu'à la quantité totale de carbone qu'on a le droit d'émettre. Voilà. Donc avec ça, on sait que si on veut se limiter à 2 degrés, notamment, eh ben, on devrait à peu près s'arrêter à 1000 pétagrammes de carbone, qui est le double de ce qu'on a émis jusqu'à maintenant. Voilà. Donc le réchauffement climatique, je vais montrer, ça dépend de la quantité qu'on a émis, mais ça dépend aussi, évidemment, pour le futur, du scénario d'émission. Parce que moi, en tant que physicien, je suis complètement incapable de dire comment vont évoluer les émissions de carbone. Personne n'est vraiment capable. Ça, c'est une décision politique. Une décision de tout le monde, Si demain nous roulons tous à vélo ou demain nous roulons tous en 4x4, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Moi, en tant que physicien, je ne suis pas capable de prédire ça pour les 100 prochaines années. Donc, pour calculer l'évolution du climat futur, on est obligé de se baser sur des scénarios d'émissions. On peut dire, on fait le scénario vélo ou le scénario 4x4, d'accord ? Pour faire court. Donc, le bleu ici, c'est le scénario vélo. On roule tous à vélo demain. Forte réduction des émissions de gaz à effet de serre avec ce scénario-là sur lequel on s'est basé pour calculer l'évolution du climat. On arrive à stabiliser vers 1 degré au-dessus de la température d'aujourd'hui. Et avec le scénario 4x4, ça continue jusqu'à 4-5 degrés au-dessus de la température d'aujourd'hui. Donc tout dépend du scénario d'émission pour l'évolution future. Là, vous avez vu des courbes. Je vous montre des cartes. Et en fait, les cartes ici, elles ressemblent. Je vais prendre celle du milieu. Ça, c'est dans un scénario moyen pour la fin du XXIe siècle. Vous voyez les mêmes structures spatiales qui apparaissent que celles qu'on observe déjà. Donc là, c'est des calculs de modèles basés sur la physique. Et c'est les mêmes structures spatiales que celles qu'on a vues sur le petit film que je vous ai montré tout à l'heure. À savoir, fort réchauffement en Arctique, fort réchauffement sur les continents. Faible réchauffement ici dans l'océan Austral et aussi ici. Ça, c'est l'histoire du Gulf Stream. Si après il y a des questions, je peux en dire un peu plus. Je ne vais pas en dire plus maintenant. J'en ai sauté un. Bon. Ça, c'est pour les précipitations. Je peux dire un mot après. Message essentiel, c'est que le contraste de précipitations entre régions humides et sèches et entre saison humide et sèche, va généralement augmenter. En gros, pifométriquement, là où c'est déjà humide, ça va être encore plus humide dans l'avenir, et là où c'est déjà sec, ça va avoir tendance à être un peu plus sec. D'accord ? Ça, c'est une règle de base, basée sur des considérations physiques assez compliquées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez garder ça à peu près en tête. Évidemment, si ça se réchauffe, pas de surprise, la glace de mer, la couverture de neige et l'extension de permafrost ont diminué. Par exemple, dans le scénario 4x4 que j'ai mentionné tout à l'heure, on a par exemple déjà une bonne probabilité de ne plus avoir de glace de mer en Arctique en été, donc au pôle Nord en été, au milieu du siècle. Et en fonction, dans un scénario plus modéré, évidemment, cette glace de mer elle continue. Mais il y a des incertitudes qu'on voit ici bien avec ces couleurs-là. Donc, ensuite, l'augmentation du niveau des mers se poursuivra. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce graphique-là. Évidemment, ça continue et ça continuera pendant des centaines d'années. Ensuite, message important, c'est que si on veut limiter le changement climatique, il faut réduire des émissions aujourd'hui, déjà. Ce qui est surtout embêtant, c'est que le scénario bleu, qui est celui qui va limiter le changement climatique à moins de 2 degrés en global, qu'on voit ici, il requiert en fait des mesures de réduction drastique dès aujourd'hui. Et en fait, si on regarde bien ici, même des émissions négatives pour la fin du siècle. Émissions négatives, ça veut dire qu'on devrait pomper du CO2 de l'atmosphère et le stocker ailleurs pour arriver à un tel scénario. Donc c'est assez... voilà. Donc le futur climatique dans les écrins. Avec ces modèles-là, on peut aussi calculer, puisque c'est des modèles globaux, vous avez vu les cartes, on peut aussi voir ce que ça donnerait dans les écrins, enfin dans notre région. J'ai exagéré, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez ici, pour l'hiver, pour l'été... ici, c'est la fin du siècle, ça, c'est le milieu du siècle, et ça, c'est les 10 prochaines années. Donc, l'évolution pour la fin du siècle, dans un scénario moyen, un scénario d'émission moyen, on va voir une augmentation de température de 1 ou 2 degrés, peut-être en France. En été, c'est peut-être un peu plus fort. Et ce qui est surtout important, c'est que en termes de précipitation, en France, on est dans l'appareil, c'est l'hiver, c'est l'été, les changements. Donc en pourcent, quand c'est couleur brune, c'est un assèchement, couleur verte, bleu, il pleut plus. Donc nous, dans le sud de la France, ici, on est dans une zone de transition un peu, pas énormément de changements de précipitation. Par contre, ce qui semble quand même assez clair, c'est qu'en été, là, ça devient plus sec et plus chaud. Donc moins de précipitation et plus chaud, ça veut dire que les sols vraiment vont quand même pas mal s'assécher. C'est ce qu'on peut dire à partir de ce genre de scénario, qui sont évidemment pas très détaillés. Je vais finir sur un point. On peut faire des simulations régionales, plus détaillées, à plus haute résolution. Et à ce sujet-là, donc il y a eu une mission qui a été dirigée par Jean Jouzel, un de mes collègues, qui a fait pour la France un rapport sur le climat de la France au XXIe siècle, avec des scénarios régionaux. J'en ai fait une copie ici. Qui donne quelques graphiques un peu plus détaillés au niveau régional, mais il ne faut pas se tromper, ces simulations, bon, y a énormément de choses qu'elles donnent, par exemple ici la fréquence des vagues de chaleur, il faut un peu de temps pour expliquer ces graphiques, je ne vais pas le prendre maintenant. Il y a des choses dans ce rapport sur les vagues de chaleur, sur les vagues de froid aussi, il me semble, sur les sécheresses. Attends, ça avance pas là. Vous pouvez avancer, hein, s'il vous plaît. Ah, si, sur les sécheresses estivales, etc. Les fréquences de sécheresse qui peuvent être calculées en fonction toujours des scénarios d'émission. Ça, c'est toujours le grand problème. Et il faut jamais perdre de vue que plus on va dans les détails régionaux, plus les prévisions climatiques ou les projections climatiques deviennent incertaines. Voilà, donc c'est en gros tout ce que je voulais vous dire. J'ai mis ici quelques sites web qui peuvent être intéressants pour vous, notamment pour ici, celui-là, driasclimat.fr, qui contient l'essentiel du rapport un peu plus détaillé sur le niveau français. Voilà, le site du laboratoire et le site du GIEC. Merci.